Il faut que tu respires.
Enerqua Mag, bonjour. Voilà, donc deuxième chapitre sur l'offre particulier. Avec moi en studio ce matin, Marc Garetta. Bonjour Marc. Et Hector.
Bonjour.
Giraud, bonjour. Voilà, donc juste pour remettre un tout petit peu en mémoire, il s'agit là de diffuser ce que la coopérative Enerqua a déjà commencé à faire et continue à faire en direction des particuliers pour une offre qui se décline comment, Marc, déjà ?
Ben, je vais revenir un petit peu sur un petit peu d'historique, pas trop long. Hein. Oh. C'est vrai que Enerqua, nous avons de grosses centrales photovoltaïques, mais aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'offre et les services que nous offrons pour des particuliers. Mmh. Ça se passe déjà depuis quelques années, pas trop puisque la coopérative est née en 2019, mais depuis le début on a des particuliers qui viennent vers nous pour s'équiper chez eux, produire et consommer leur production. C'est vrai qu'à l'origine nous avons créé des ateliers pour, j'allais dire, renseigner les gens, pour les aider, pour qu'ils évitent des arnaques et pour qu'ils puissent faire leur choix. Nos précédentes interventions étaient très centrées sur la partie matérielle. D'ailleurs, elles étaient dénommées plug and play, pour prêt à brancher, ou équipement RGE, pour garant de l'environnement, me semble-t-il. On a refondu une nouvelle offre pour les particuliers, mais déjà depuis quelques mois, en fait, c'est un gros travail que nous avons fait cet été, qui consistait à dire, centrons-nous un petit peu plus sur les personnes et sur les services que la coopérative peut leur apporter. Donc, dans ce sens-là, on a dégagé trois étapes clés. Une première étape, c'est d'essayer de définir ses besoins en termes d'équipement.
Donc une sorte d'évaluation.
Voilà, une évaluation, un état des lieux. On comprend assez aisément qu'une personne qui consomme 1000 kWh par an ou une autre qui va consommer 10 000 kWh par an, ce n'est pas du tout les mêmes réflexions. Mmh. Donc il faut déjà partir du quotidien des gens, de leur consommation et de leurs besoins.
Mmh,
leur besoin, c'est couvrir le maximum de ce qu'ils pourraient faire. Ça, c'est une première étape et on verra tout à l'heure, Hector nous en parlera, que ça déroule sur un atelier dédié. Ensuite, on a un autre, qui est basé, centré sur l'équipement. Donc après avoir défini et réfléchi à ses besoins, on essaye de voir les différents équipements possibles, les différentes solutions que nous avons aujourd'hui pour s'équiper. Et un troisième temps, qui est, j'allais dire, la mise en œuvre de l'autoconsommation. Car une fois que nous sommes équipés, on vient de voir la deuxième étape, la troisième étape, ça va être de vivre avec ces panneaux photovoltaïques, si j'ose dire. Dans le sens où notre consommation au quotidien, la façon dont on consomme va évoluer. C'est à cette condition-là que l'on va pouvoir avoir une bonne intégration de sa production solaire sur son quotidien. Donc je résume, trois étapes. Une qui est la définition des besoins. Une deuxième qui est les possibilités d'équipement que j'ai. Et une troisième étape qui est, ok, je suis équipé, comment est-ce que je peux intégrer ça au mieux dans mon quotidien ?
Donc optimiser les deux étapes précédentes en faisant une bonne utilisation d'une fois qu'on a choisi le matériel qui correspond aux besoins de chaque particulier.
C'est ça.
D'accord. Bon, Hector, donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au dessin que Marc vient de faire en sorte d'introduction à ce deuxième chapitre autour de l'offre particulière ?
Ouais, ben en fait Marco il a donné quelques indications sur l'historique et moi je vais faire quelques précisions aussi sur cet historique. C'est vrai que comme il le dit, on a fait quelque chose qui était centré sur le matériel, c'est-à-dire que on s'était occupé de voir les besoins. Donc ça, c'est toujours un petit peu ce qu'on tente de faire à Enerqua, c'est de connaître, de comprendre les besoins qui sont pour les coopérateurs. Et donc on a on équipait par des groupements de commandes des centrales photovoltaïques RGE, donc dans laquelle on faisait de la revente et de l'autoconsommation. Puis on a vu émerger les kits plug and play, les kits solaires qu'on pouvait brancher sur une prise, et ça, ça a un petit peu inondé le marché. Ça nous a intéressés parce que c'était un moyen beaucoup plus rapide de faire de la production, et donc on a développé un atelier à l'époque pour s'équiper sur les kits. Et en début d'année, il faut rappeler que il y a eu un effondrement en fait sur les aides qui étaient proposées par l'État, les aides sur l'investissement et la revente, qui s'est effondrée et qui a rebattu les cartes. Donc nous, on a été attentifs à ça avec Marco, de, par notre expérience aussi sur notre connaissance du PV pour les particuliers, on s'est dit comment on pourrait refondre ça. Et donc c'est ce qu'il a décrit, c'est aujourd'hui cette forme avec les trois ateliers qu'on fait, trois ateliers collectifs qui sont centrés sur la production PV pour le particulier. Et puis l'étape d'avant, c'est de connaître ses besoins, et ça aussi ça fait partie d'un atelier collectif. Et quand on s'est équipé, eh bien, on passe après au troisième, la déclinaison de ce que tu disais, autoconsommation, optimisation de l'autoconsommation, etc., pour être au mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on vient présenter, en fait, plus simplement, hein, c'est ça Marco ?
Ouais.
Voilà. Et donc sur ces trois ateliers qu'on fait, des ateliers collectifs, on a celui qui est vraiment central, c'est celui sur la production. Et quand on participe à cet atelier, ce qui est intéressant pour les personnes, c'est que à la fois elles vont pouvoir voir ce qu'est une installation RGE et ce qu'est une installation avec un kit, et en fin d'atelier pouvoir éventuellement faire un choix pour elles. Mmh. Avant, on faisait un atelier ou un autre, voilà, comme on disait.
Là, donc en fait, ils ont tous ceux qui participent à ces ateliers, ils ont la possibilité de comparer les solutions.
Voilà.
Ah, d'accord.
On les aide à comparer les solutions, celles qui vont leur correspondre selon leurs propres besoins. Voilà. Et donc c'est ça qui change un petit peu, puisqu'on voit que à la fois dans l'effondrement des aides, qui fait qu'aujourd'hui il faut vraiment aborder le PV différemment, mais c'était déjà le cas, c'était déjà porté par Enercoa, mais d'autant plus là puisque c'est l'État qui nous l'indique, qui dit voilà maintenant les amis, vous allez mieux autoconsommer parce qu'on vous rachètera pas votre surplus. Voilà, on a des centrales qui durent longtemps, donc c'est quelque chose qui est probant aussi d'installer une centrale et d'autoconsommer pendant très longtemps. Voilà, donc ça c'est le premier atelier qu'on propose centré sur la production.
Oui, Marco. Effectivement. Oui, donc on vient d'aborder le fait que pour nous le centre c'est l'organisation et le suivi par les personnes d'ateliers. Quelques petits aspects pratiques. Il n'y a pas besoin d'être sociétaire de la coopérative pour suivre ces ateliers. Ce n'est pas interdit, hein, mais bon, nous, on est toujours contents de recevoir de nouveaux sociétaires dans notre espace, mais bon, ce n'est pas une obligation. C'est souvent, d'ailleurs, plutôt une motivation, un point d'entrée. Ensuite, ce que nous venons de décrire, c'est-à-dire de se centrer sur les besoins, et aussi, je pense qu'Hector vient de le dire clairement, décliner l'orientation du législateur, puisqu'en fait, c'est vrai que les changements qui a eu dernièrement, c'est beaucoup parce que le photovoltaïque est bien moins aidé qu'il n'a eu été par le passé.
Bien donc, sûr.
Donc, on s'adapte à cela. Et du coup, notre organisation au quotidien, c'est la possibilité donc de, un, s'inscrire sur ces ateliers, l'inscription est nécessaire en amont, et comme tu viens de le préciser, Andrea, il est vrai que, par exemple, sur l'atelier, sur la production elle-même, j'ai dans les yeux un tableau comparatif des différentes solutions où on présente aux gens, voilà, la solution 1, la solution 2, il y en a essentiellement deux, hein, sauf cas particulier, et voilà, les avantages d'un côté, les inconvénients,
de l'autre, oui,
et
sûr.
Ça, tout cela pour se faire une idée et pouvoir faire un choix éclairé.
Donc, alors, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, en fait, s'il y avait davantage de changements dans le futur, notamment côté législateur, comme on vient de le dire. Par exemple, imaginons qu'ils se rendent compte que en fait, ils ont un tout petit peu trop baissé ce qui est censé aider les gens à s'équiper, et donc ils reviennent sur leurs décisions et ils remettent des conditions un tout petit peu plus favorables. la coopérative sera à nouveau obligée, entre guillemets, de réadapter son offre vers les particuliers.
Non, si le législateur décidait, si je comprends bien,
de revenir un tout petit peu sur ce qui a été décidé terme d'aide, quoi.
Oui, on peut toujours rêver.
Oui, voilà. On est là pour ça, d'ailleurs.
Donc, voilà, ouais. Et donc, de toutes les façons, le travail qu'on fera et la revente n'a jamais été supérieur, pour les particuliers en tout cas, à l'achat qu'ils ont la plupart du temps de leur kilowattheure. Donc, de toutes les façons, même s'il y avait des avantages, ça va agir sur le retour sur investissement qui sera plus intéressant, mais voilà quoi, de quelques années, mais ça sera pas, c'est pas là pour, c'est pas l'idéal ici, enfin c'est pas l'objectif principal de ça, donc pour nous on changera pas notre vision, ça sera vraiment autoconsommé.
D'autres conditions extérieures, si je peux les nommer ainsi, ne viendront pas perturber en profondeur la réflexion que vous avez déjà entamée et vous continuez de faire concernant l'offre en direction des particuliers.
Oui, pardon.
Ça pourrait changer, mais ça m'étonnerait que ce soit dans la direction où tu l'indiques.
Oui, rêver, comme Hector vient de le dire. Allez.
Ça pourrait péricliter et donc du coup l'adaptation que l'on fait est d'autant plus pertinente. Il n'y a pas de question. La production photovoltaïque restera toujours intéressante. Peut-être qu'il faudra-t-il s'adapter sur la capacité, s'adapter de la façon dont on l'intègre. Je voulais revenir sur un autre point, c'est que ces ateliers que nous décrivons sont des ateliers que nous pratiquons déjà. Nous avons organisé une session mi-septembre, je n'ai pas la date, et une autre mi-octobre dernièrement, avec chaque fois une dizaine de participants, qui sont donc des moments où les personnes viennent, nous présentent, un petit tour de table à l'origine, quels sont leurs objectifs, parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a des choses très très différentes, et puis on fait ce tour d'horizon.
Très bien. Bon, si vous le permettez, on va demander à mon ami d'enfance, Paolo Conte, de nous égayer un tout petit peu.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips.
do 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 chi boom chi boom boom do 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 chi boom chi boom boom do 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 do.
Merci Paolo Conte. Alors je reviens. Je reviens avec Marc et Hector. Hector, en fait, par rapport à ce que Marc venait juste de dire, juste avant la pause musicale,
oui.
Il y a, je crois qu'il y a des précisions à apporter.
Oui, on n'a pas été totalement précis sur ce qu'avait fait le législateur, comme tu dis. Il a aussi demandé à ce qu'il y ait une TVA à 5,5 pour les centrales installées par des artisans, 5,5%, mais c'est assujetti à des... Enfin, on est obligé, dans ce cas-là, d'avoir des panneaux qui répondent à un certain bilan carbone. Et on a aussi l'obligation de mettre un dispositif de pilotage de la centrale, de savoir comment elle produit, ce qui se consomme, et éventuellement mettre des redirections vers des consommateurs électriques. Donc, on n'en a pas trop parlé, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme ces produits sont plus chers sur le marché, souvent cette TVA 5,5, elle est éteinte par le surcoût nécessaire pour avoir des panneaux avec un meilleur bilan carbone et les dispositifs. Donc on a une centrale qui va coûter un petit peu plus cher qu'une centrale, on va dire, traditionnelle, celle qui est présentée d'habitude. Et donc cette TVA 5,5 fera que on aura à peu près le même prix que la centrale qui existait alors. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'en parle pas trop, mais bon, on peut préciser quand même qu'il y a des TVA 5,5 et qu'elles deviendront peut-être intéressantes dès qu'on verra apparaître des panneaux qui seront au prix du marché, on va dire, et qui répondent à ça. Donc
ils seront moins taxés que les précédents.
Voilà.
Mais avec des performances qui correspondent de plus à ce que le législateur demande.
Voilà, c'est ça. Après, restent les centrales photovoltaïques qui font moins de 3 kilos sont aussi à 10%, et ça change pas, 10% de TVA au lieu de 20%, et puis les autres qui sont au-dessus sont à 20%, donc ça ne change pas.
D'accord. Et tout ça, quel type d'incidence a eu alors sur votre propre réflexion pour améliorer, si je peux dire, la manière d'approcher et d'intégrer toutes ces nouvelles données aux propositions vers les particuliers.
Aujourd'hui, on voit que cette baisse, en fait, des aides, etc., a fait qu'on a eu une baisse de la demande sur les installations RGE, puisqu'elles sont moins intéressantes financièrement. Après, comme on le rappelle, c'est que c'est une centrale, elle ne dure pas juste le temps d'un investissement, hein, c'est une centrale qui dure 30-40 ans. On a vraiment une installation qui dure, et donc qui va permettre de faire des économies sur très longtemps dans un bâtiment. Donc voilà, il ne faut pas juste centrer la réflexion sur l'intérêt financier de la centrale, mais sur l'intérêt qu'on en a de réduire sa consommation avec son fournisseur et de faire des économies grâce à ça.
Oui, sans parler de l'impact écologique et...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui,
puisque... et le fait que c'est de la production électrique sur le territoire et qui ne vient pas de... centrales nucléaires qui sont à des centaines de kilomètres.
Voilà, mais aussi, on sait que pendant le transport, il y a de la perte sur le réseau par dissipation, et donc de faire une consommation qui est vraiment centrée là
où... Très localisée.
Voilà, oui. Très localisée, donc dans sa propre habitation, ça permet aussi de réduire ces pertes qu'on sait ailleurs. Voilà.
Oui, okay. Je vois que Marc veut...
Je lève le doigt.
Voilà, lève le doigt, donc je te donne la parole, Marc.
Merci. Alors c'est vrai qu'il y a nos sources, ou nos origines, ou ce qui nous titille, c'est d'une part le législateur, on vient de le voir, mais il y a aussi les compétences dont on fait l'acquisition au quotidien, parce qu'on suit des installations, je pense qu'Hector a dû suivre une quarantaine ou une cinquantaine d'installations, nous-mêmes depuis les dernières années, on a suivi plusieurs dizaines d'installations.
Et on tout a ça, ça fait expérience.
Oui, c'est ça. Ça fait de l'expérience, ça fait de la pratique. Donc, on a la législation, notre expérience, notre pratique, et le souhait qu'a la coopérative de faire partager cette notion. Du coup, on a dit que nous dérivions sur un certain nombre d'ateliers. En fait, on a trois types de prestations. L'atelier qu'on appelle collectif, Donc, c'est le nom d'origine, je pense, de l'atelier. C'est une dizaine de personnes. Nous avons fait 2 sessions, une dizaine de personnes qui se réunissent et puis on échange, on partage et puis on apporte quand même, nous, Enercoa, le fruit de notre expérience, de notre compétence pour que chacun commence à avoir des billes en main pour faire un choix, donc collectif. Ce même atelier collectif, on peut le décliner en individuel. C'est à peu près le même atelier, sauf que cette fois-ci, il va être pour une personne, on va dire, ou une installation, ou une famille, dans le sens où peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se libérer au moment des ateliers. C'est vrai que les ateliers, on essaye de varier un petit peu les plaisirs, mais on est toujours embêté. Est-ce qu'on doit le faire le samedi matin ? Est-ce que c'est en fin d'après-midi ? Est-ce que c'est au milieu de la journée ? Alors, si on le fait en fin d'après-midi, on n'a pas les mères de famille. Si on le fait le mercredi, les gens sont ou pas disponibles, ça dépend. Donc du coup, on s'est dit, et c'est parce qu'on nous l'a demandé, on peut décliner cet atelier collectif en atelier individuel qui est plus souple à mettre en œuvre. Mmh. Bon, du coup, on le comprend en le disant, de notre côté, on peut aussi s'adapter un petit peu mieux à la personne qui va suivre cet atelier que dans un atelier collectif, bien sûr, on a...
Oui, être un tout petit peu plus centré, véritablement, sur les besoins particuliers de la personne qui participe. Oui.
Voilà. C'est ça, oui.
C'est-à-dire que si la personne nous dit, moi, je ne suis pas intéressé par ça, a priori, ou cet aspect-là, je ne le comprends pas, a priori, on peut s'adapter. Donc, c'est un atelier individuel, c'est le même atelier, un petit peu plus précis dans son œuvre.
Oui, et puis c'est vrai que quand on va faire cet atelier individuel, on va rapidement décliner un choix pour une volonté d'aller vers une solution ou l'autre pour le particulier. Et donc, dans ces cas-là, on aura plus de temps vraiment pour décortiquer les besoins spécifiques, comme tu le disais, quoi.
Voilà. Et puis éventuellement éviter de prendre des orientations que en fait ne sont pas utiles parce que ce n'est pas du tout dans les besoins de la personne qui peut s'exprimer plus facilement en étant en individuel, enfin individualisé plutôt qu'à être dans un groupe où effectivement il faut tenir compte des besoins de tout le monde dans ce cas-là. Donc on reste obligatoirement tout un peu plus généraux.
Oui, puis l'expérience, en fait, moi je l'ai sur les centrales déjà RGE, où j'ai fait pas mal d'accompagnement, et où vraiment on peut décliner ce besoin, donc déjà on connaît un petit peu les besoins, on sait les anticiper aussi, les accompagner à regarder dans la bonne direction pendant cet atelier collectif, mais encore plus pendant l'atelier individuel.
Alors, je pense être dans l'obligation de souligner ce que Hector vient de dire, il s'agit bien là d'un accompagnement. Moi, j'aime bien cette vision de la chose parce que c'est quelque part aussi essayer d'éduquer un tout petit peu nos concitoyens à quelques des formes de pratiques au quotidien qui devront obligatoirement s'adapter à ce que la réalité nous amène, quoi.
Oui, en fait, de par l'expérience qu'on a eue, Marco, moi, puis d'autres, sur le PV, ce qui serait intéressant, c'est de... Moi, je parle d'éducation populaire. On accompagne vraiment autour de ça. On a des ateliers qui sont bien déclinés. Et dans ces ateliers, on donne le savoir que nous, on a pu acquérir, on le redonne aux participants. Ça, c'est un truc super intéressant.
Oui, et je trouve aussi.
Et après, il y a une troisième chose, un troisième type en fait d'accompagnement. Donc là, en effet, c'est un accompagnement à la réflexion. On a certains coopérateurs qui viennent vers nous avec des questions nouvelles que nous non plus on ne maîtrise pas, comme par exemple l'autoconsommation collective entre un petit groupe de citoyens, quelqu'un qui voudrait faire de l'autonomie complète, être hors réseau parce qu'il est sur un site isolé, des choses comme ça. Et donc en fait, nous on aime bien aussi accompagner ces personnes qui ont des projets mais qui sont mal définis, parce qu'on peut leur faire profiter de nos connaissances, de nos réseaux et des accompagnants qu'on a, et peut-être les réorienter et les aider là-dedans dans cette réflexion pour plus tard faire d'autres ateliers plus intéressants et partager à nouveau ce savoir.
Ou les joindre à nous, coopératives, pour réfléchir ensemble.
C'est ce que j'allais dire, parce que toutes ces personnes qui viennent avec des questions un peu... qui sont un peu dans la norme,
atypique,
voilà, c'est le mot que je cherchais, oblige quelque part aussi à la réflexion, à ne pas s'arrêter à un certain stade, mais continuer d'évoluer en permanence.
Ouais, ouais, c'est déjà ça, c'est déjà okay. produit à la fin.
Juste parce qu'on va conclure, je rappelle que tous nos ateliers sont présentés sur notre site internet, enercoa.fr, et au même endroit où ils sont présentés, il y a la capacité de s'inscrire. Oui. On y voit les conditions. En général, ils sont gratuits, mais autrement, il peut y avoir une petite contribution. Et donc, l'inscription est obligatoire en amont, on le comprend mieux.
Bien, bah écoutez, encore une fois, je vous remercie de votre participation. Nous arrivons au terme de cette émission et j'espère cette fois-ci que le futur nous réserve de bonnes surprises.
Bien sûr.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Salut.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.